Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Dans une demi-heure, nous parlerons de la crise humanitaire en Centrafrique. Plus de 25 000 personnes vivent sans assistance depuis un mois à Kagabandoro, dans le Nord. La plupart des humanitaires ont cessé le travail après une énième attaque de groupes armés. Pourquoi les ONG sont-elles de plus en plus souvent prises pour cible? Et surtout, comment faire cesser ces attaques contre les travailleurs humanitaires? Vous pouvez encore nous appeler et nous écrire pour participer au débat. En attendant, comme chaque jour, ce sont vos questions à la rédaction. Nos spécialistes viennent répondre à toutes vos interrogations sur l'actualité. Et la première question nous vient d'Abidjan. Bonjour Isaac.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
À la demande de Tripoli, l'Italie a décidé d'envoyer une flotte militaire ainsi qu'un millier d'hommes dans les eaux libyennes pour tenter de réduire le flux des migrants. Quel rôle est-il d'assistance? Une flotte militaire va-t-elle pouvoir apporter aux autorités libyennes en Méditerranée? Pendant ce temps, l'opposition libyenne dénonce une violation de leur souveraineté. Qu'est-ce qui justifie ces termes alors que la demande émanerait de Tripoli?
Alors, Houda Ibrahim est avec nous pour vous répondre. Bonjour Houda.
Bonjour Anne.
Journaliste au service Afrique, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de ce type d'aide aux gardes-côtes libyens?
Eh bien, c'est pas clair encore. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Tout ce qu'on sait, que le type d'assistance que la flotte militaire doit apporter aux gardes-côtes libyens, que l'Italie a formé, mais aussi l'Europe, ils ont formé presque 300 hommes. Ces hommes-là sont là et ils n'ont pas des navires, ils n'ont pas de bateaux. Et normalement, c'est une assistance qu'on doit leur apporter côté italien. Mais cette assistance n'est pas claire et on ne connaît pas le détail. Et même en Libye, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand ils ont demandé des aides logistiques, jusqu'à maintenant, Fayez Sarraj, le président du conseil, le gouvernement de Tripoli, le conseil national, nie jusqu'à cet instant qu'il a demandé une aide militaire pour aider les gardes-côtes libyens. Donc, il s'agit de fournir une aide logistique à ces gardes-côtes, mais les détails, personne ne les connaît. L'Italie n'a pas annoncé ces détails, ni la presse italienne. Et d'ailleurs, une dizaine de bateaux prêtés par l'Italie à la Libye du temps de Muammar Kadhafi, justement pour lutter contre ce phénomène de migration, ont été repris après 2011. Donc, ces bateaux-là n'était pas dans les mains des gardes-côtes de la marine libyenne et elle n'a pas du tout des moyens pour se défendre ou pour ramener les migrants vers les côtes libyennes. Et dans les cas restreints où on ramène tous les jours 170 personnes, comme c'était le cas hier, c'est vraiment avec des embarcations presque qui sont comparables à ces petits bateaux, embarcations de migrants. C'est vraiment très peu de moyens. Alors, selon certains experts, au-delà de problèmes de migrants, l'Italie est le premier investisseur en Libye. Il a des intérêts dans ce pays, il a beaucoup critiqué la France, pour sa politique en 2011, l'Italie a accusé la France toujours comme quoi elle n'a pas assuré le service d'après-vente, elle n'a pas assumé sa responsabilité pour la période d'après Kadhafi. Donc, à travers cette intervention, je pense aussi, et beaucoup d'experts le pensent, l'Italie veut peut-être amener sa vision de choses et sa vision d'une solution pour la Libye.
Alors là, en l'occurrence, il y a déjà un premier bateau qui est arrivé la semaine dernière. Est-ce qu'on sait ce que sera le sort de ces migrants qui seront interceptés par la mission italienne?
Alors là aussi, ce n'est pas clair du tout. Même l'Italie ne déclare pas. Je pense qu'ils sont à la recherche d'une solution et ils ne savent pas comment faire. Parce que l'Europe, quelque part, a tourné le dos à l'Italie. Normalement, ce qui est dit à la Commission européenne, que 200 000 personnes sont arrivées, 211 000 personnes sont arrivées depuis, des migrants sont arrivés depuis le début de l'année en Italie. Et c'est l'Italie toute seule qui prend cette responsabilité vis-à-vis de ces migrants. Donc, on a parlé au début, au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, de dispatcher ces migrants dans les pays, de les envoyer un peu partout en Europe, mais ce n'est pas le cas. Donc, l'Italie, aujourd'hui, agit toute seule. La Commission avait sa position qui dit qu'elle comprenait l'Italie, mais on ne sait pas ce que l'Italie va faire de ces migrants.
Mais probablement, une des grandes craintes, justement, c'est qu'ils soient renvoyés en Libye, où leur sécurité n'est pas du tout assurée.
Probablement, ça sera le cas. Et c'est ce que les ONG et les associations de droits de l'homme dénoncent. Et d'ailleurs, ces ONG qui travaillent en Méditerranée, on leur a imposé par l'Italie un code de bonne conduite. Et ça, les ONG n'aiment pas. Et ils ont accusé l'Italie de vouloir restreindre leur travail. Et on a vu l'exemple de ce bateau allemand qui a été empêché de travailler, etc. Donc l'Italie ne sait pas encore comment faire. C'est un peu comme le président français qui a parlé de hotspots en Libye, alors qu'on connaît la situation, la violation de droits de l'homme par rapport aux migrants dans ce pays. Et tout le monde dénonce ça. On a vu le bateau hier de la droite européenne qui voulait aussi rendre, si j'ose dire, ces migrants, les renvoyer vers les côtes africaines. Et là aussi, on voit un peu ce genre de discours qui circule. Et je voudrais noter un point, c'est qu'à Tripoli, pourquoi les gens ne sont pas contents? Ils sont en colère parce qu'ils disent à Tripoli, les trafiquants, on les connaît, c'est des chefs de guerre, c'est des chefs de milices. Et avant d'amener des bateaux militaires à Tripoli et devant les côtes libyennes, on doit d'abord les arrêter ici. C'est une partie de problème et une partie essentielle. Et il faut agir sur le terrain libyen d'abord par le gouvernement de Tripoli avant d'amener les bateaux et les avions militaires.
Une des questions de notre auditeur, Isaac, c'était également la position de la Libye. Pourquoi certaines voix dénoncent-elles une violation de la souveraineté libyenne alors qu'officiellement, la demande vient du chef du gouvernement?
Alors, ce n'est pas que l'opposition, comme notre auditeur le dit, c'est un peu la majorité de Libyens. Pourquoi? Parce que ils ont vraiment la colonisation italienne a cessé en 1947. Et dans la mémoire libyen, il y a encore beaucoup de choses douloureuses de cette époque de l'existence italienne, de la colonisation italienne pour ce pays. Et donc directement, on voit l'arrivée à nouveau de cet ancien colonisateur qui vient là. Et cette décision est venue de Tripoli, mais selon la Constitution, c'est le Parlement libyen qui doit dire oui ou non à cette intervention italienne dans les eaux territoriales libyennes, mais aussi dans le ciel libyen. Car depuis le 27 juillet, on le sait, il y a des avions qui sillonnent toute la Libye. Et donc, un point aussi qui est relevé par ces opposants qui ont brûlé le drapeau italien un peu partout en Libye, c'est que c'est l'exécutif, c'est un problème entre le législatif et l'exécutif. Normalement, c'est le Parlement, donc le législatif, qui doit dire oui ou non à ce genre, dans ce genre de situation et ce genre d'intervention, mais le Parlement n'a pas été consulté. Et les gens de droit et qui connaissent la Constitution libyenne, ils disent on ne peut pas dire oui à une seule personne représentée par Faïz Sarraj, le Premier ministre, qui a fait une telle demande, ce n'est pas valable.
Merci beaucoup Houda Ibrahim et merci Isaac de nous avoir appelé. On espère que la situation est plus claire maintenant, même si on l'a bien compris. Il reste beaucoup de zones d'ombre autour de cette mission italienne. Je vous rappelle le numéro de téléphone 33 9 693 693 70. N'hésitez pas à nous laisser un message si vous avez une question sur l'actualité ou si vous souhaitez participer au débat. Dans 20 minutes environ, nous parlerons de la crise humanitaire en Centrafrique. Elle s'aggrave d'autant plus que les ONG sont désormais visées régulièrement par des attaques, au point que certaines d'entre elles ont interrompu leurs activités début juillet à Kagabandoro, c'est dans le nord du pays. Et ces derniers mois, les locaux d'ONG ont été pillés à plusieurs reprises dans plusieurs zones. Et les Nations Unies considèrent qu'aujourd'hui, eh bien, la Centrafrique, c'est l'un des pays les plus dangereux pour les humanitaires. Notre question aujourd'hui, comment faire pour éviter ces attaques contre les ONG? On en parle juste après le prochain journal. D'ici là, d'autres questions sur l'actualité. Bonjour Philippe.
Bonjour Amine.
Vous nous appelez de Lomé et vous avez une question concernant le Japon.
Oui, j'ai appris sur RFI que le Premier ministre Shinzo Abe a remanié son gouvernement. Dans quel contexte est intervenu ce remaniement et puis va-t-on avec ce gouvernement vers l'abandon de la constitution pacifique de ce pays, le Japon?
Nous sommes en ligne avec Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Effectivement, comme le faisait remarquer notre auditeur, ce remaniement n'arrive pas par hasard. Le Premier ministre est dans une situation délicate en ce moment.
Alors oui, il est effectivement dans une situation délicate pour deux raisons. Circonstancielle, c'est qu'il y a eu une série, alors pas encore vraiment de scandale, mais en tout cas d'interrogations sur des marchés ou des accords, et notamment de favoritisme avec des gens qui seraient proches de lui. Donc ça nuit évidemment à sa popularité. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a la question de la reprise de la croissance économique qui était au cœur de son programme et qui n'est pas vraiment là. Alors le taux de chômage au Japon est très bas, il est à peine au-dessus de 2% et la société fonctionne encore très bien, mais cette économie qui ne reprend pas suscite des inquiétudes. Ceci dit, le PLD, dont le Premier ministre est le chef, reste la seule formation qui aujourd'hui a des chances de remporter les prochaines élections qui devraient avoir lieu en 2018. Ça lui laisse donc un peu plus d'un an pour essayer de redresser la barre. Et les Japonais pensent que c'est plus peut-être une question autour de sa propre personnalité que autour de la politique menée par le parti au pouvoir, le PLD, actuellement.
Alors, vous parliez de l'économie qui est l'une des priorités officiellement du Premier ministre. L'un des autres grands projets de Shinzo Abe, c'est de réformer la Constitution d'ici à 2020 et notamment pour modifier l'article 9 qui affirme le renoncement à la guerre. Philippe en parlait, la Constitution du Japon est pacifiste. Est-ce que ce nouveau gouvernement va travailler à une modification de la Constitution qui a été écrite après la Seconde Guerre mondiale?
Alors il a déjà commencé puisque c'était aussi une priorité de Abe et d'ailleurs qui pose un certain nombre de problèmes en termes de popularité. Donc ça va sans doute continuer mais paradoxalement peut-être d'une manière moins active parce que le PLD a compris que ça n'était pas un sujet très populaire au Japon. En revanche, s'il veut réformer la Constitution et toucher éventuellement l'article 9, il ne veut pas toucher au renoncement à la guerre, il veut simplement pour le moment reconnaître ce qui existe en réalité, que le Japon a des forces armées. Officiellement, selon la Constitution, le Japon n'a droit à aucune force armée, alors qu'on voit bien que les forces d'autodéfense existent. Donc l'idée, c'est de reprendre la main, effectivement, 70 ans après la fin de la guerre, sur sa propre autonomie en matière constitutionnelle et mettre dans la Constitution que les forces armées du Japon sont finalement constitutionnelles et légales. C'est le point qui pourrait être touché éventuellement, mais avec de grosses difficultés. Il faut deux tiers, une majorité des deux tiers, plus un référendum à plus de 50%. Donc les possibilités de réforme sont extrêmement difficiles.
Est-ce qu'aujourd'hui, Shinzo Abe dispose d'une majorité suffisante pour faire passer un tel projet ?
Pour le moment, il a la majorité avec notamment le soutien du Komeito, mais qui n'est pas très favorable. Et par ailleurs, au sein même du PLD, de nombreux députés n'y sont pas non plus favorables, parce qu'ils sentent que dans la population japonaise, qui est très isolationniste en fait, et n'a pas envie d'être plongée dans des risques face au monde extérieur, eh bien ce projet-là inquiète. Mais un Japon qui est, ceci dit, face à des défis de sécurité dans la région qui sont très importants, et qui impose en fait aussi cette réflexion. réflexion sur la défense du Japon et le rôle des forces armées.
Mais notamment avec les tirs qui se multiplient de la part de la Corée du Nord. Merci beaucoup Valérie Niquet d'avoir répondu aux questions de Philippe. Très bonne journée à tous les deux. Il nous reste quelques minutes avant le prochain journal, le temps d'une dernière question. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Anne.
Vous vouliez nous parler du Burundi?
Oui, bonjour Anne. Oui, j'ai appris sur vos antennes que l'opposition et le gouvernement burundais étaient rencontrés en Finlande afin de commencer des négociations en vue d'une sortie de crise qui dure plus de 2 ans. À ce propos, ma question est de savoir comment expliquer cette négociation entre l'opposition et le gouvernement qui s'est déroulée à Helsinki en Finlande. Ensuite, pourquoi aucun membre du gouvernement n'était présent durant ces rencontres?
Alors, avec moi pour vous répondre, Carole Valade, journaliste au Service Afrique, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour Ibrahim.
Cette crise, elle dure donc depuis 2 ans au Burundi, depuis que le président Nkurunziza a voulu annoncer sa candidature et puis a été réélu au terme d'une élection très contestée. L'ONU parle de centaines de morts, des centaines de milliers de personnes ont quitté le pays pour se réfugier à l'étranger. Et aujourd'hui, toutes les tentatives de médiation sont au point mort. Et pourtant, la semaine dernière, en Finlande, on a observé un premier contact. Pourquoi à Helsinki en Finlande?
Parce que cette ville, en fait, c'est le siège de l'initiative pour la gestion des crises, c'est-à-dire l'ONG, en fait, qui a organisé cette rencontre. Peut-être un mot d'abord sur cette organisation. Elle a été fondée en 2000 par l'ancien président finlandais Martti Ahtisaari, qui est détenteur d'un prix Nobel de la paix, et qui, pour la petite histoire d'ailleurs, connaît assez bien le facilitateur dans la médiation burundaise, le tanzanien Benjamin Kapa, puisqu'en 73, en fait, Ahtisaari est nommé ambassadeur en Tanzanie. Kapa était alors journaliste, et on raconte que les deux futurs présidents jouaient ensemble au basket. Pour revenir à l'organisation, son but, selon sa page officielle, c'est de résoudre les conflits par le dialogue informel et la médiation.
Et alors, en quoi ça consiste exactement?
C'est un travail de fond, en fait, qui se fait dans la discrétion, qui consiste à préparer le terrain, loin des feux des projecteurs médiatiques et de la lourdeur des protocoles diplomatiques. Concrètement, sur le Burundi, ça consiste à organiser des rencontres, des prises de contact. Par exemple, lorsque le Sénaret de l'opposition a voulu récuser le facilitateur Benjamin Kapa, parce qu'elle le jugeait trop proche du pouvoir, eh bien c'est la CMI qui les a en quelque sorte réconciliés. Si vous voulez, la CMI, c'est un peu comme Sant'Egidio à Rome. Vous savez, c'est l'office de la diplomatie du Vatican qui est parvenu tout récemment à ramener un accord de paix en Centrafrique.
Alors, ça fait 2 ans déjà, quasiment, que la communauté des États d'Afrique de l'Est, elle, est chargée d'organiser une médiation et un dialogue inter-burundais sous l'égide du président ougandais, Museveni. Est-ce que cette initiative de CMI ne risque pas de court-circuiter un peu ce qui est déjà en cours en Afrique de l'Est?
On pourrait le croire, a priori, vu que ce dialogue-là, en tout cas, semble au point mort. Mais toutes les sources, en tout cas, qu'on a pu consulter, se veulent très rassurantes. Elles disent que cette initiative, elle vient plutôt en complément de la médiation, que la facilitation est bien sûr au courant, qu'elle est informée, qu'elle donne sa bénédiction à la rencontre, et qu'en fait, il s'agirait plus d'un moyen de donner une nouvelle impulsion, de relancer un processus qui est en panne, hein, toujours pour les mêmes raisons, parce que les protagonistes campent sur leur position, et que le pouvoir de Bujumbura notamment refuse catégoriquement de rencontrer l'opposition en exil, parce qu'elle l'accuse d'avoir organisé le coup d'État raté en mai 2015.
Alors c'était l'autre question d'Ibrahim, pourquoi aucun membre du gouvernement n'était présent à Helsinki en Finlande, c'est pour ça?
Et oui, a priori, c'est un peu un moyen de dire ce qui se passe à Helsinki n'engage pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui prend des engagements là-bas. Alors, certes, il n'y avait pas de ministre, mais en revanche, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, lui, était très bien représenté, même parce qu'il y avait l'ombudsman, Eduardo Wimana, qui est ancien ministre de l'Intérieur du Burundi.
Ombudsman, c'est une sorte de médiateur, c'est ce qu'on appellerait ici en France,
c'est
un médiateur.
Un poste honorifique, un médiateur, un conciliateur, mais la personnalité d'Eduardo Wimana fait débat depuis sa nomination, puisque il est très proche, connu pour être très proche du président. Il y avait aussi un haut cadre du SNR, du service de renseignement burundais, des hautes personnalités du régime, en tout cas des députés aussi du CNDD, des personnalités dont on sait qu'elles ont l'oreille du président.
Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui s'est dit?
Eh bien, c'est là toute la question, hein, parce que comme pour Sant'Egidio, c'est vraiment la discrétion qui prime. Une des conditions, c'est de ne rien dire, ne rien laisser fuiter de ce qui s'est dit, parce que l'organisation craint que des révélations trop hâtives pourraient faire capoter le processus. A priori, à raison, hein, parce que ça c'est déjà arrivé par le passé, mais toutes les sources, en tout cas, s'accordent pour dire que les discussions sont plutôt bien passées. Tous parlent d'un grand pas en avant. Certains disent qu'il y a des engagements qui ont été pris, mais bon, c'est encore trop tôt pour en parler. En tout cas, les visions restent opposées, mais ils vont continuer à se voir.
Merci beaucoup, Carole Valade. Vous restez avec nous dans quelques secondes. L'actualité.
Bonjour. C'est...